With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Yeah.
Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls. Bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio et également une fois par mois sur Twitch pour un épisode hors série. Dans cet épisode, je voulais parler de souffrances psychiques extrêmement courantes dans notre quotidien, le stress et un peu la déprime. On va essayer de comprendre quels sont les déclencheurs, les mécanismes que l'on met en place pour y faire face et surtout les solutions qu'on a. Ces souffrances, elles sont souvent accompagnées d'autres problèmes comme l'anxiété, les TOC, la dépression, etc. Donc on va tenter d'aborder un max de choses pour faire un véritable tour d'horizon sur tout ça. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Benjamin. Benjamin, qui est mon ami depuis 15 ans. Bonjour Benjamin.
Salut.
Est-ce que ça va?
Bah, ça va très bien.
C'est bizarre de se retrouver comme ça.
Ah, c'est marrant. Ouais.
On n'a pas l'habitude. Hein.
Surtout après tout ce qu'on a vécu.
Et effectivement, ça fait 15 ans qu'on se connaît.
Ah ouais, ouais
à peu
ouais,
près. Hein.
Ouais, ouais.
T'as quel âge là?
33.
Oh, je dirais ça fait 13, 4... Pff. Bon, un peu plus de 10 ans qu'on se connaît. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie?
Alors, bah moi j'ai 33 ans, j'ai toujours fait de la musique, je suis guitariste, pianiste aussi, je chante, et puis voilà, je fais plein d'événements, des choses comme ça, j'accompagne des artistes. Et puis après, j'ai monté depuis quelques années, depuis ma fille est née, qui a 4 ans et demi, d'autres business qui n'ont strictement rien à voir, mais qui me permettent aussi de lâcher un peu la musique, de faire d'autres choses aussi, parce que ça m'intéresse, voilà.
Tu es, comment on appelle ça, un multitalent? Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Multicasquette.
Multicasquette, mais c'est vrai, parce que tu fais de la musique, c'est ton métier depuis toujours.
Ouais.
Où t'es d'abord guitariste, extrêmement bon guitariste, faut le dire. T'es devenu pianiste un peu genre comme ça.
Ouais.
Un peu, hein.
Bon, parce que je l'ai travaillé, mais oui.
Oui, mais je veux dire, t'as d'abord fait de la guitare, puis du piano, et maintenant tu fais plein de trucs différents en plus à côté.
Ouais.
Et je trouve ça assez cool. Si tu devais décrire ta personnalité en trois mots, ce serait quoi?
Oula.
Je peux le faire pour toi.
Alors.
Je peux le faire carrément pour toi.
Non, mais je veux le faire. Parce que, bon, voilà, c'est moi. Moi, c'est moi.
Ouais, ouais.
Voilà. Non, je dirais enjoué, anxieux et fragile.
Ah ouais, c'est bien.
Ouais.
C'est très bien, je suis d'accord avec toi.
Ouais.
C'est bien parce que pendant cet épisode, je peux carrément être d'accord avec ce que tu dis et être pas du tout d'accord parce que je te connais très bien. Alors, le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt? Moi, je sais, parce que je l'ai pris de toi, malheureusement.
Carrément?
C'est pas carrément, c'est machin.
Ah bah machin, bah oui.
On dit tout, je l'ai pris de toi.
C'est vrai,
oui. Parce que genre Ben, quand il parle, et j'ai pris ça de lui, ouais, donc j'ai été ça, j'ai été là-bas et j'ai fait ça, machin. C'est machin,
c'est
tu
vrai,
le dis tout le temps.
Machin, ouais.
Machin. L'endroit où tu te sens le mieux?
Ah, c'est difficile, ouais. Putain, ça dépend des jours, les copains.
Ouais, mais en règle générale.
En règle générale.
Est-ce qu'il y a un endroit où tu dis, ah, là, c'est un peu ma safe place, tu sais?
Non, non, vraiment, je pense que j'ai pas d'endroit comme ça. Ça dépend vraiment, parce que je peux être très heureux dans une cave, comme je peux être très heureux, très malheureux,
dans ton lit,
au bord d'une plage, voilà, à 40 degrés. Ça dépend vraiment de mon état psychologique.
Et bah, tu vois, Sidonie, qui était l'invitée précédente, elle a dit un truc que je trouvais hyper juste. Elle a dit, je peux me sentir bien partout, mais je me sens surtout bien avec moi, qui est un peu ma maison mère. Tu vois, elle disait ce truc-là et je disais, ah, mais c'est hyper juste.
Ouais,
elle dit,
ça.
À partir du moment où t'es connecté à toi,
exactement. Ouais,
tu peux être bien partout.
Ouais, tout à fait.
Donc, ça te convient. Mm. Qu'est-ce que tes proches disent de toi?
Qu'est-ce que mes proches disent de moi? Bon, que je suis facile à vivre, que je suis gentil, que des choses assez simples finalement. On ne dit pas de moi que je suis quelqu'un de compliqué, de torturé. Moi, je le ressens complètement différemment.
Ouais, moi je dirais, parce que je suis une de tes proches,
ouais.
Je dirais que t'es brillant, je te trouve assez intelligent, t'es curieux de plein de trucs.
Ah oui, ça
t'es
par
hyper
contre, ouais,
curieux.
Ça, je suis.
Mais genre vraiment, genre tu vas au bout de ton information, t'es hyper curieux, quoi. T'es chiant, aussi.
Ça c'est, oui, ça c'est possible.
Un petit peu. Mais je dirais que t'es, ouais, et puis t'es enjoué, je trouve que ça te va bien, et t'es un peu enfantin aussi.
Ouais.
Ouais. Voilà.
Mais voilà, mais c'est vrai que l'entourage un peu lointain, enfin les gens qui me connaissent comme ça, j'ai l'impression souvent de passer, de pas trop être aperçu, quoi.
Ouais.
D'être
un peu lambda.
Voilà, lisse, un peu lambda, ouais. Ouais.
Et ça te va ?
Ça me va. Franchement, ça me va. Ouais. Ça me va.
Ok. Je te propose qu'on entame la discussion sur le contexte familial et social qui entoure la naissance de ces problèmes. Mmh. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance, de ta famille, tes sœurs, tes parents, dans quel univers t'as grandi quand t'étais enfant ?
Alors, moi, j'ai grandi dans un univers où mes deux parents étaient profs. Après, ils ont monté des écoles. Donc, beaucoup dans l'enseignement. Et puis, moi, j'avais un parcours scolaire assez chaotique et où je trouvais pas du tout ma place à l'école. Donc, en plus de pas trouver ma place, je trouvais pas non plus l'affection dont j'avais besoin, peut-être, de la part de la société, de la part de mes parents aussi. Même si je sais qu'ils étaient là, hein, ils étaient présents, etc. Mais d'être seul à l'école, qui est quand même 80% du temps, plus de se sentir seul à la maison parce qu'on réussit pas ses devoirs, parce que voilà, donc j'ai beaucoup senti ça en étant enfant.
T'as senti beaucoup de solitude ?
Beaucoup de solitude, ouais. Ouais.
Et avec ta sœur, parce que t'as une sœur qui a quelques années plus que toi,
ouais.
Elle a quel âge ?
Elle a 5 ans de plus que moi.
Est-ce que vous étiez proches étant enfant ?
On était proches, mais Sarah, c'est pareil, c'est quand on a 5 ans de différence, il y a tout de suite quand même un grand écart.
Ouais.
Parce que bon, bah, elle est un peu teenager, alors que moi je suis encore enfant.
C'est ça.
Donc on sort ensemble, mais on sort pas trop ensemble parce qu'elle veut pas trop montrer à ses copains, etc., etc. En plus, à cette époque-là, je suis un peu bouboule, donc voilà, elle veut faire de moi un peu le mec beau gosse machin. Donc elle me dit qu'il faut que je maigrisse, des choses comme ça, quoi.
Ouais. Ouais. Mais est-ce que, parce que quand tu dis que t'as grandi un peu dans un univers un peu de solitude, tu sens que tes parents, même si t'as eu de l'amour, etc., est-ce que tu sentais que tu manquais d'amour à des endroits, tu vois ?
Oui, je pense que j'ai senti que je manquais d'amour, ouais, bien sûr. Bah, ce sentiment terrible de moi, je me rappelle d'être à l'école maternelle et que ma mère devait aller travailler, hein, ce que je comprends aujourd'hui parce que je suis papa, et que moi j'étais devant la grille et que je hurlais avec la main tendue à travers la grille parce que je voulais pas que ma mère s'en aille. Mmh. Et en fait, ça ne s'arrêtait pas du tout la journée. C'est-à-dire que c'était tous les jours, tout le temps.
En fait, tu te sentais abandonné.
Ouais,
en fait.
Je me sentais complètement abandonné parce que je me sentais pas du tout à ma place à l'école, quoi.
Mais tu te sentais abandonné par ta mère ou par ta famille?
Par ma mère, je pense.
Plus que par ton père.
Plus que par mon père, parce que bon, le papa, alors aujourd'hui ça a beaucoup changé, mais le papa, moi quand j'étais petit, on était encore sur un schéma très le papa il est là, il arrive, il met les pieds sous la table, il travaille jusqu'à 9h, voilà, donc c'était un autre rapport que j'avais avec mon père.
Mmh. Et dans quel univers, dans quel environnement social t'as grandi ? Est-ce que c'était plutôt, t'étais dans une classe aisée, CSP+, enfin tu vois ?
Alors j'ai été dans une classe assez aisée, ouais, parce que mon père gagnait pas mal d'argent, et puis jusqu'au jour où, à un moment il a tout perdu, etc., quand je devais avoir 12-13 ans, et puis bon là ça a été un peu la descente avec les huissiers à la maison, les flics à la maison, enfin etc., donc ça, j'ai un peu vécu tout ça.
Donc en fait jusqu'à 12 ans t'as grandi dans un univers assez aisé
Oui.
J'ai plus ou moins tout ce que je veux sans être dans des caprices et machin.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prenait l'avion, on partait tout le temps, ouais. À droite à gauche.
Et à partir de 12 ans, il y a eu un peu un cassage de gueule.
Voilà, ouais, ouais. Après, mes parents sont séparés. Ma mère nous élevait difficilement. Après,
ils se sont séparés. T'avais quel âge, toi ?
Ouais, à peu près toujours. Moi, je remets à peu près toujours à la même. Alors, la chronologie n'est pas bonne, je le sais, mais dans ma tête, c'est toujours à peu près 12-13 ans que tout s'est passé. Mais parce qu'il y a eu des décalages d'un an, peut-être, au moment où ça se casse la gueule. Après, ils se séparent, après machin. Après, voilà.
Ouais, ouais.
Donc voilà. Et puis, ma mère devait nous gérer deux ados, quand même. On rentrait. Enfin, moi, je rentrais dans l'âge. Un peu compliqué, ma sœur elle était en pleine crise d'ado, donc c'était pas forcément facile, ouais.
Et donc c'est ta mère qui s'occupait de vous plus que ton père ?
Ah ouais, parce que mon père il était en train d'essayer de relever la tête de son dépôt de bilan, essayer de rembourser toutes les dettes qu'il avait. Il est tombé malade en plus, après, quelques années après, il a eu un cancer, donc voilà, ça a été un peu compliqué.
Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec les gens quand tu étais enfant et ado ? Est-ce que tu étais introverti, tu étais timide, bavard, violent ?
Non, j'avais beaucoup envie d'aller vers les autres. J'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses à donner, mais que à chaque fois que j'essayais de donner des choses, on me foutait un peu un revers de la main en se moquant de moi, en disant des choses, parce que j'étais un peu différent, mais j'ai fait plusieurs lycées, plusieurs trucs, etc., qui ne me correspondaient pas du tout. Je me retrouvais dans des ambiances qui n'étaient pas du tout les miennes. Mmh. Moi, j'étais très lunaire, un peu artiste, machin, etc. Puis je me suis retrouvé dans un lycée technique, professionnel.
Ah ouais, je savais pas ça.
Ah ouais, si. Ouais, c'était un peu. Donc voilà, j'essayais d'avoir un peu des. Je sais pas, de me faire des gens autour de moi et de leur donner ce que j'avais l'impression, ma vision un peu des choses. Et puis, c'était des moqueries, des trucs comme ça. Donc
des moqueries à quel niveau?
Je suis passé partout, des moqueries parce que j'étais peut-être un peu féminé, donc on disait que j'étais gay, des moqueries parce que j'étais pas bon et que j'étais pas du tout à ma place, donc on me disait que... Enfin voilà, c'était que des choses comme ça, quoi. Tu vois.
Mais toi, par contre, avec les gens, t'étais plutôt avenant ou plutôt hyper recentré sur toi?
Non, j'essaie d'être avenant et puis, en fait, à un moment, j'y arrivais plus, donc... Donc après, j'ai quitté l'école.
T'as arrêté l'école quand, d'ailleurs?
À 16 ans, je crois, 17 ans, un truc comme
ça. T'étais en quelle classe?
J'étais en première, parce que j'ai pas passé le bac.
Ouais.
Ouais. Et même mon brevet, je l'ai pas eu.
Ouais, pareil. Comme moi, j'ai arrêté en seconde, et toi, t'as arrêté en première.
Voilà.
Putain. Ouais, moi, je suis assez pareil que toi. Moi, je me retrouvais pas du tout dans le système scolaire. Pareil, je me sentais toujours un peu à part, quoi. Il y avait un peu ce truc où j'ai l'impression que j'étais pas à ma place.
C'est ça.
Ouais.
Et moi, j'ai vite bossé après. Et puis là, par contre, je trouvais ma place dans le travail.
Ouais.
C'est-à-dire que j'étais avec des gens de plein d'univers différents. Et puis là, il y avait une espèce d'échange, quoi.
Et est-ce que pendant ta période d'enfant et d'adolescent, t'as eu un peu des traumatismes physiques ou psychiques, tu vois, à cette période, pendant cette longue période? Je sais que t'aimes pas quand j'emploie ces termes-là, parce qu'on a l'impression que t'es malade, je sais que t'aimes pas ça, je sais. Mais est-ce que, disons que, quoi, ça te fait chier qu'on parle de ça?
Non, ça y est, on rentre dans le vif du sujet.
Bah oui, on rentre dans le vif, mais on est là pour ça, et en plus, je trouve que, te connaissant depuis plus de 10 ans, tu es dans un état dépressif, même si j'aime pas dire dépression parce que je sais que t'aimes pas ce terme-là. On va dire que t'as de l'anxiété, on va plutôt dire ça comme ça, depuis hyper longtemps. Et justement, je trouve que c'est intéressant de revenir un peu aux racines, entre guillemets, tu vois, de est-ce que t'as vécu ce genre de choses enfant? Est-ce que t'as des souvenirs de ça? Ou est-ce que c'est venu plus tard?
Alors, moi, le premier souvenir des vraies crises d'anxiété que j'ai eues, qui ont duré quand même très très longtemps, c'était, je devais avoir 17-18 ans. Je me souviens que j'étais dans une relation avec une femme beaucoup plus âgée que moi, qui avait 10 ans de plus que moi, qui avait un enfant. Et je me jetais à corps perdu dans cette relation, mais parce que, en fait, l'école, ça n'allait pas, etc.
Enfin, bon, donc, tu t'es un peu réfugié dans...
Voilà, je me suis réfugié là-dedans et tout ça. Et je me souviens que les premiers moments qui ont un peu dicté après la suite de mon existence, ça a été ce moment où je suis seul chez moi et où je suis en pleine attaque de panique assez violente, d'ailleurs très violente, et je ne me reconnais pas vraiment quand je me regarde dans le miroir. C'est-à-dire que je me vois moi, mais je ne sais pas qui c'est. C'est assez étrange comme sentiment.
Juste avec quel âge, là?
Là, je devais avoir 18 ans.
Et donc, t'étais en rupture avec cette personne ou pas du tout?
Ah non, d'accord. J'étais encore, mais dans une relation très dépendance affective. Et je me souviens de ça. Donc là, j'étais tout seul chez moi. J'étais encore avec cette nana. Après, je me rappelle d'un moment où je suis à côté dans le lit avec elle et que j'ai je ressens des choses tellement fortes avec une angoisse extrêmement présente. Vous savez, des carillons qu'on voit un peu comme ça sur les bords des fenêtres, etc. Et j'en vois plein qui se mettent à tourner. J'entends les bruits, je les entends pas, mais je les entends. J'entends moi qui crie maman, enfin des choses comme ça et qui sont assez assez marquantes quand ça t'arrive pour la première fois. Et là, le premier truc, c'est que je me dis ok, donc en fait j'ai une maladie, je suis fou.
Alors attends, juste je me permets de t'interrompre. Quand il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose?
Non. Alors il s'est rien passé. Il y a pas eu un événement déclencheur comme on appuie sur un bouton et voilà. Ouais. Ça, je pense que ça a été beaucoup de choses accumulées qui ont fait que ces événements se sont déclenchés.
Et du coup, quand tu es dans cette crise de panique-là, qu'est-ce qui se passe? À part ces carillons, tu penses à quoi? Enfin, c'était quoi les... Tu sais, souvent, quand on a angoissé, c'est parce qu'on a angoissé sur un sujet précis, tu vois?
Alors, c'est là où c'est un peu différent pour moi. C'est que quand l'angoisse comme ça, à ce point-là, vous tombe dessus et qu'elle dure aussi longtemps et qu'il n'y a pas forcément de raison, enfin, on n'arrive pas à les définir les raisons, c'est très compliqué de donner
une explication.
Une explication, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Et ça dure une semaine, deux semaines, trois
semaines. Et t'es dans cet état d'anxiété
permanent. C'est-à-dire que je me lève, je m'endors, je suis comme ça.
Et c'est quoi les pensées, je me dis, j'ai pas des visions,
c'est pas comme si j'avais des visions, mais j'ai des choses assez violentes qui m'arrivent comme ça, presque devant mes yeux, en imaginant, j'ai des sons, j'entends. Et puis, en même temps, j'ai peur de perdre ma relation, en même temps, je sais que je suis pas bien à l'école, que je sais pas quoi, ce que je vais faire de ma vie. Et puis, tout ça s'entremêle dans une espèce de bouillabaisse, d'angoisse, de trucs, etc. Et qui reste là et qui s'installe, qui s'ancre vraiment en moi. Donc là, je commence à aller voir une pharmacie. Voilà, j'y vais tout seul, je me dis, je sais pas ce qui se passe. Voilà, la nana m'assoit, elle me donne un petit calmant, un truc et tout ça. J'essaie de trouver la cause, je la trouve pas. Et puis un mois passe, j'en parle un peu à ma mère, un peu à mon père, et je parce qu'ils voient qu'il y a un truc qui va pas. Alors, eux non plus ne comprennent pas. Et puis à un moment, je décide un jour d'appeler un numéro de psychologue que je trouve sur Internet.
Okay.
Et j'ai 18 ans à ce moment-là. Donc un truc totalement ouvert, gratuit, etc. Et là, je tombe sur une dame qui s'appelle, que je me rappellerai toujours.
Est-ce que tu te rappelles juste de ce nom de cette société?
Pas du tout.
Non, okay,
mais j'avais tapé psy, téléphone, urgence, machin, un truc comme ça.
Okay.
Et,
donc tu tombes sur cette dame au téléphone?
Et sur cette dame qui s'appelle Marion Jacoub, qui est toujours, je pense, là. Et en fait, avec qui j'ai commencé à cheminer. Alors, il s'est passé beaucoup de temps, parce que je trouvais des choses, enfin, je parlais, donc j'entame une thérapie, etc.
À 18 ans?
Voilà, j'entame une thérapie, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, est-ce que je suis malade? Parce que le premier truc, c'est que je me dis, ok, je suis malade, en fait, je suis schizophrène ou un truc comme ça. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas à ses yeux à elle, en tout cas. Au bout d'un an, deux ans, trois ans, je vois que ça continue. Alors, il y a des périodes d'un peu d'accalmie où ça se calme.
Alors, juste pendant, quand tu dis pendant deux, trois ans, c'est que tu rencontres cette psy à 18 ans et donc tu rentres en thérapie avec elle.
Voilà.
Et pendant, du coup, ces deux, trois ans, t'es en thérapie, ça se calme un peu, ça revient un peu, mais t'arrives toujours pas à expliquer la raison, la cause.
Non.
Okay.
Alors, en plus, sachant que quand on arrive en thérapie et qu'on connaît pas du tout, il y a une manière. Enfin. La thérapie, elle sert si on s'ouvre complètement. Et s'ouvrir quand on a 18 ans et qu'on ne connaît pas du tout ça, c'est très compliqué.
Ouais.
Donc en fait, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps, enfin, à apprendre en tout cas ce que c'était.
Oui, en même temps, j'allais dire t'en as gagné, parce que commencer une thérapie à 18 ans, il n'y en a pas beaucoup qui le font aussi.
Voilà, c'est ça en fait. J'ai dû apprendre à connaître la thérapie, savoir comment s'ouvrir et comment parler complètement librement de tout. Ça peut être ses fantasmes, ses angoisses, ces trucs, mais sans filtre.
C'est un truc que tu dis qui est très très juste, parce que pour faire un parallèle avec juste moi par rapport à la thérapie, moi je vois des psys depuis très longtemps. Déjà parce que ma mère est psy, donc ça a été son désir à elle, et puis après il y a eu le mien. Et je me souviens que ma psy actuelle, je la vois depuis quelques mois, et à un moment on fait une séance au téléphone, et elle me dit « Là Juliette, vous travaillez pas du tout là ». J'ai dit « Ah bon ?» Elle me dit « Non, vous êtes en surface de tout, vous essayez de me faire rire ». On ne travaille pas, donc là, ça sert à rien. Et je crois que j'ai fondu en larmes parce que j'ai compris que c'était mon mécanisme de défense, tu sais, de vouloir faire rire les gens, d'être légère, de machin. Et elle m'a dit, là, on bosse pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis complètement ouverte. Et donc, il n'y avait plus du tout cette notion de, je voulais qu'elle m'aime, tu vois, je voulais qu'elle m'apprécie, qu'elle se dise, ouais, putain, j'ai vraiment une patiente incroyable, tu vois, tout ça. Et effectivement, quand tu lâches ce truc et que t'es juste là, en travail, c'est vraiment là où ça commence. Donc, je voulais juste le dire parce que tu as complètement raison là-dessus.
Et c'est ça. Et chose qu'aujourd'hui, j'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est quoi, il n'y a pas si longtemps que ça?
Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je me souviens de... Moi, je rentrais très souvent chez la psy depuis, ça doit faire, 6 mois, un truc comme ça. Et je rentrais toujours en disant « Bonjour, comment ça va? Vous allez bien ?» Voilà. Et c'est très dur d'avoir en face de soi une personne et de ne pas, pas se préoccuper de cette personne.
Complètement.
Voilà.
Ouais.
Et de complètement... Enfin, de dire comme si on avait un mur en face de soi.
Complètement. C'est dur, hein. Hyper
c'est
difficile.
C'est vraiment dur.
Cette nana avec qui t'es restée, qui était un peu plus âgée que toi, vous êtes restés combien de temps ensemble?
On est restés 5 ans.
Et après la rupture, est-ce que ça a été plus compliqué?
Alors, là, c'est revenu fort puissance 1000. C'est-à-dire que je pars en Australie faire le Working Holiday Visa. Parce que je me dis que je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. Enfin, si, je sais que je veux faire de la musique. Donc, je prends ma guitare avec moi, je pars en Australie. Là, je rencontre une autre nana qui me suit, qui vient en Australie. J'avais rompu avec cette fille-là. et je me retrouve donc à Sydney. Là, je commence à travailler en tant que landscaper, donc jardinier. Et après, un peu dans une pizzeria. Après, je commence à bosser en tant que musicien. Je fais des petits concerts dans des petits bars, des machins. Et là, pareil, encore un coup du destin. Je me réveille le matin. Et à partir de ce moment-là, je me souviens que je ne pensais qu'à cette meuf. C'est-à-dire que je n'ai pas pensé du tout à elle pendant presque un an. Je me suis séparé en me disant, OK, en fait, j'ai un choix à faire dans ma vie. Soit je vis pour moi, soit j'ai vécu pour cette relation-là. J'ai décidé de vivre pour moi, ça a été dur, etc. Mais je pensais pas à elle. J'étais plutôt heureux, plutôt très enjoué, plutôt très courageux d'aller faire des choses, de partir, de machin. Et là, vraiment, mais vraiment du jour au lendemain, c'est-à-dire que je me réveille le matin et je pense à elle. Et là, je pense à elle.
En obsession, quoi.
En obsession. Ouais. Tout le temps.
Je me souviens que tu m'en parlais beaucoup à l'époque.
Ah ouais. Ouais. Et en fait, mes principales questions, c'était est-ce que je vais retourner avec elle ou est-ce que je vais pas retourner avec elle? C'est-à-dire que je me faisais même plus confiance, quoi. Et ça a duré 2 ans.
Et t'es rentré en contact avec elle pendant ces 2 ans-là?
Non, pas du tout.
Tu l'as recontactée?
Non, j'ai tenu. Ouais. Elle a essayé de me recontacter beaucoup. Ouais. Et j'ai tenu. J'ai tenu parce qu'à un moment, pareil, j'étais au bout du bout et je décide d'aller... Parce que je trouvais plus d'aide dans la thérapie. Et donc, je décide de mettre d'autres choses en place et d'aller voir un psychiatre.
Ok.
Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Donc ça, c'était il y a 10 ans, je pense. Mmh. Et depuis, j'en prends toujours.
Ça fait 10 ans que t'en prends.
Ça fait 10 ans que j'en prends. J'ai arrêté. J'ai repris. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Mmh. Et je pense que sans ça, je serais certainement pas là. Mmh. Voilà. Alors après, c'était pas des gros dosages. Je sais que souvent, ça fait peur aux gens parce que c'est de la méconnaissance aussi. Mmh. Il y a beaucoup de méconnaissance. Mais quand on fréquente un peu ces milieux, parce que je suis passé par des CMP, des hôpitaux de jour, etc., où en fait, j'avais aucun diagnostic, hein, ni de personne dépressive, ni de
bipolaire,
ni de schizophrène, ni de rien du tout. Juste un trouble anxieux généralisé qui fait que bah, des fois, la vie est peut-être plus difficile pour d'autres que... Voilà.
Et est-ce que... Donc toi, t'es sous antidépresseur depuis presque 10 ans. Est-ce qu'il y a une différence? Enfin, je sais qu'il y en a une, mais est-ce que tu peux peut-être nous l'expliquer entre antidépresseur et anti-anxiolytique?
Alors, bon, il y a plusieurs cas de figure. Il y a la dépression, il y a l'anxiété, etc. Et quand l'anxiété devient trop forte, elle est traitée comme la dépression. C'est-à-dire que... Alors, il y a un consensus un peu au niveau des psychiatres qui se voient, qui font des réunions, etc. ensemble et qui parlent des nouveaux problèmes de société que les gens rencontrent, etc., qu'on connaissait pas avant. Mm-hmm. Ou en tout cas, que les gens disent. De ce qu'ils en tirent aujourd'hui comme conclusion, c'est qu'on ne serait pas, avec des guillemets, hein, qu'on ne serait pas forcément tous égaux au niveau des doses de sérotonine que le cerveau développe, etc., en fonction de notre code génétique, de nos parents. Donc, c'est important de savoir qu'on n'est pas forcément tous égaux. Donc, on traite l'angoisse comme de la dépression, c'est-à-dire qu'on restimule la sérotonine qui est libérée par les neurotransmetteurs et que, voilà, il suffit d'une petite dose pour restabiliser un peu l'humeur, pour reprendre aussi de la distance par rapport à nos sentiments et ce qu'on ressent et se dire « Ok, bon, ça va, ça va passer. »
D'ailleurs, l'anxiété et l'angoisse, ça désigne un peu le même ressenti et le même mécanisme. Ouais. L'anxiété correspond simplement au terme plus pathologique. Et la différence entre le stress et l'anxiété, c'est que l'angoisse se caractérise par une sensation diffuse de mal-être. J'ai pris ça sur Internet, ok?
Je ne sais pas si c'est très juste,
mais l'angoisse se caractérise par une sensation diffuse de mal-être dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Cette impression de danger latente est permanente, contrairement au stress qui survient dans des circonstances précises. L'angoisse peut être réelle ou imaginaire, mais le sujet qui en souffre ne parvient pas à en faire la différence. Est-ce que toi, ça te parle, ça?
Ah bah complètement. En plus, cette douleur, tu as employé le mot diffuse, qui est un peu comme une sorte de serpent qui va se diffuser dans le corps, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une ou deux pensées, et puis ça dure un jour, et puis ça dure 2 jours, et puis ça dure 3 jours. Et puis ça dure 2 semaines, et puis machin, et puis au fur et à mesure, l'angoisse s'installe un peu dans le corps, on commence à avoir une boule au ventre, on commence à avoir la vision un peu trouble, on n'est pas bien, on a froid, on a envie juste de se laisser dormir. Et là, l'angoisse s'installe vraiment. Et pour la faire disparaître, donc il y a ce traitement un peu médicamenteux qui est mis en place. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est un traitement lourd. Hein, on n'est pas. Et il y a des anxiolytiques, donc là, on revient, qui permet justement de calmer un peu les sensations physiques qui vont être purement des sensations physiques, hein, de la réaction à l'angoisse, c'est-à-dire palpitations du cœur plus élevées, les vaisseaux sanguins qui se dilatent. Donc tout ça, on le sent un peu dans notre corps.
Et toi, tu le sens ça aussi?
Ah bah ouais, complètement, ouais.
Donc toi,
ouais.
T'es sous antidépresseur et sous anti-anxiolytique?
Alors, non, voilà. En fait, quand il y a des moments dans ma vie où j'ai eu des grosses crises, pour les faire passer, oui, je prenais un peu de Xanax. Hein,
okay.
C'est pas des grosses doses qui m'achevaient du tout.
Oui, mais ça, c'est vraiment ponctuel, en fait.
Voilà, c'est-à-dire que ça va durer, je sais pas, 2 semaines, où on va prendre, je sais pas, 6 comprimés. Alors, ça paraît beaucoup, mais encore une fois, c'est des dosages qui sont petits et qui sont faits pour être étalés dans la journée.
D'accord.
C'est pas parce qu'on prend 10 médocs que c'est forcément beaucoup. C'est-à-dire que ça peut être des petites doses qui sont bien étalées dans la journée pour faire justement disparaître l'angoisse, parce qu'il y a quelque chose qui est très important dans le mécanisme de l'angoisse, c'est que quand on s'en souvient, on se souvient des sensations, et l'angoisse arrive à se remettre très rapidement dans le corps. Donc en fait, il faut essayer d'oublier un peu ces sensations, ça dure 2 semaines, 3 semaines, et puis après on reprend notre existence normale, on arrive à prendre du recul, on arrive à prendre aussi comprendre un peu ce qui s'est passé, pourquoi l'angoisse s'est installée, etc. etc.
Et d'ailleurs... Parce que donc ça a commencé quand t'étais en couple vers 17-18 ans.
Ouais.
Y a eu cette histoire avec cette nana qui a été compliquée pour toi, parce qu'effectivement, je me souviens que tu m'en parlais beaucoup à l'époque de cette nana. Est-ce que suite à ça, ça a rendu tes relations amoureuses plus compliquées ou pas ?
Non, je pense que ce que j'ai appris de tout ça, c'est d'essayer d'arriver à vivre coûte que coûte avec ce que moi, avec ce que je suis en tant que personne, avec mon psyché, avec mon physique. Et j'ai fait encore des mêmes erreurs, j'ai fait encore les mêmes choses. Et je pense que mes principales erreurs, ça a été de ne pas connaître mes limites et de laisser les gens, par mon enthousiasme, etc., avoir un peu cette l'image de mon père que j'ai tout le temps qui reste en moi, qui est quelqu'un de très généreux, de « allez, on y va, on prend un bateau, on part au bout du monde ». Et quand j'ai rencontré des femmes, etc., c'était toujours ce truc-là. Sauf qu'à un moment, j'en avais plus envie et je me mentais à moi-même et je continuais, en fait, dans ce truc-là, sans m'en rendre compte.
Ouais.
Et donc l'angoisse arrivait peu à peu.
Ouais, moi, donc ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, et c'est vrai que je trouve que ce qui a vachement changé en toi, tu me dis si je me trompe, mais je trouve qu'à l'époque, en tout cas, bon, on a été ensemble, hein, toi et moi, il y a très longtemps, ça n'a pas marché, on a essayé, bon, on était copains, quoi. Mais en fait, c'est vrai que je me souviens de toi à l'époque, de quelqu'un qui n'arrivait pas à dire non, qui voulait faire plaisir aux gens parce que tu voulais certainement être aimé, et que ça a bougé, je trouve.
Ouais.
Mais qu'il y avait un peu ce truc de statut chez toi, de posture de... Je veux faire plaisir, mais du coup, je connais pas mes limites. Donc, en fait, je me bouffe moi-même et on me bouffe et machin et là.
Ouais, c'est ça.
Et maintenant, j'ai l'impression que petit à petit, quand même.
Alors, c'est petit, tout petit à petit.
Ah ouais?
Petit. Ouais, c'est tout petit à tout petit. j'ai eu récemment, justement, comme tous les couples en rencontre, des problèmes avec ma femme, etc., où on a un peu eu des remises en question, des choses comme ça, où j'ai compris pourquoi j'en étais arrivé là. Et en fait, là, j'ai fait un vrai bilan du truc et je me suis dit, ah, mais oui, en fait, j'ai encore pas mis des limites. Malgré qu'on ait un enfant, etc. Et en fait, j'ai compris un peu les limites de ce que je pouvais être aussi. Avec ma femme, voilà, tout ça. Donc, ça veut pas dire qu'on ne refait pas les mêmes erreurs, on les refait souvent.
Ouais, mais déjà, t'as conscience du truc, donc c'est quand même un bon point de départ. Est-ce que tu peux nous dire, pour revenir un peu à cette histoire d'angoisse, dans quel autre genre de circonstances ce mal-être il peut se manifester? Est-ce que t'as un peu des moments où tu sais que là, tu vas être en crise d'angoisse? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire?
Oh.
Peut-être tu vois pas. Est-ce que tu sens qu'il y a des moments où là, faut pas que t'ailles dans cet endroit, faut pas que t'ailles voir cette personne, ou faut pas que tu te retrouves à cet endroit même, parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va naître en toi?
Alors, j'ai moins ce problème-là. Je l'avais beaucoup avant. Maintenant, j'ai pris beaucoup plus d'assurance par rapport à ça. Avant, j'étais très dans un truc de genre, il faut absolument pas que je revoie cette fille parce que sinon je vais retomber, ça va être terrible. Je vais repenser à elle, je vais me remettre dans un mécanisme d'angoisse, etc. Donc ça c'était beaucoup avec les femmes. Hein. Il y a eu beaucoup un truc avec les femmes où j'avais cette peur-là, cette peur de tomber amoureux, cette peur de trucs. Et du coup, j'étais beaucoup dans un contrôle tout le temps. Et maintenant, je le suis moins. J'ai moins parce que maintenant, j'ai aussi une petite fille qui a 4 ans et demi, où je sais qu'en fait, quelque part, j'ai poussé aussi beaucoup de... J'ai ouvert beaucoup de portes. Et je sais que l'angoisse peut revenir, mais je sais que je peux aussi la faire disparaître.
Tu veux dire qu'à l'époque, en fait, tu savais déjà, entre guillemets, que si tu lâchais les vannes... En fait, t'allais parce que quand tu dis j'étais vachement dans le contrôle de tout, c'est parce que quand à un moment t'as dit j'avais peur de tomber amoureux,
Ouais.
Pour toi, peut-être tomber amoureux, c'était synonyme de, pas de défaite, mais de genre je lâche en fait, je m'ouvre et je lâche prise et on va me voir tel que je suis ou...
Non, c'était pas la peur de tomber amoureux, c'était ce que ça allait engendrer en moi, plus. C'était vraiment que l'angoisse revienne en fait, l'angoisse de perdre, l'angoisse de tout ouais. ça. Et ça, c'était très présent.
Et là, tu sens que c'est moins présent
oui,
ou pas?
Beaucoup.
Parce ouais. que... T'es devenu papa il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Mmh. Quand t'as appris la nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Est-ce qu'il y a eu un truc où... tu vois? Ou alors c'était plutôt détendu
Eh bah, pas tant que ça, en fait. Ça a été bizarrement, hein, c'est marrant. Hein, c'est toutes ces choses-là qui peuvent paraître... Enfin, qui sont les plus belles choses quand même de la vie. Ou même, enfin, je sais pas, quand je me suis lancé dans d'autres business, etc. Enfin, je fais un peu le parallèle parce que c'est des choses, pour moi, qui ont été importantes dans ma vie. Ma fille, etc. Tout ça, ça a été ponctué par des petites angoisses, mais qui partaient assez rapidement. Je pense qu'il y avait un vrai truc avec les femmes.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça où t'arrives pas encore à l'expliquer?
J'ai du mal à l'expliquer. J'ai vraiment du mal à l'expliquer.
Alors, est-ce que tu peux...
Je pense que ça se joue beaucoup autour de la séduction, mais pas sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour. Enfin, ma fille, par exemple, je l'aime, mais comme ma fille. Je l'aime pas d'amour amoureux.
Bien sûr. Ouais, ouais.
Et ça, par exemple, ça me fait pas peur du tout.
Oui.
Quand je me suis lancé dans d'autres choses, dans la vie, etc., ça me faisait peur, mais en même temps, j'en avais pas trop peur. J'ai eu des petits moments de peur, mais...
Mais peut-être qu'avec ta fille... Tu me dis si c'est une analyse de merde, hein. Mais peut-être qu'en fait t'as pas peur parce que tu sais que tu es son père et que tu l'aimeras et que elle ne partira pas, elle ne t'abandonnera pas parce que, enfin, elle va grandir, elle va partir machin, mais qu'il y a un lien.
Bah, elle pourrait m'abandonner. Elle pourrait m'abandonner.
Oui.
On ne sait pas ce qui se passera quand elle aura 18 ans. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, mais c'est vraiment par rapport au sentiment amoureux.
Peut-être justement parce que tu n'as rien à lui prouver.
Ouais, je pense.
Tu vois, c'est que
ouais.
tu l'éduques, tu es là, ouais. tu l'aimes, tu lui donnes son
cocon d'amour. Je lui donne des limites.
Et tu lui donnes des limites, ouais. mais surtout, tu n'as rien à lui prouver pour qu'elle t'aime en retour.
Ouais.
Et que peut-être justement, c'est ça qui fait que tu n'as pas peur avec elle,
oui.
alors qu'avec les autres
oui.
femmes... T'attends, tu dois prouver des
ouais,
choses de toi,
ça.
De machin.
Ouais.
Et donc, j'imagine que l'angoisse se crée différemment.
Ouais.
Mais quand tu dis que t'as un truc avec les femmes et que ça se joue au niveau de la séduction, c'est parce
ouais.
que tu penses qu'en séduisant, c'est comme ça qu'on va t'aimer ou que... Enfin, tu vois,
Non, j'ai un profond besoin d'être aimé, oui, enfin, comme beaucoup de gens.
Oui,
hein,
bien sûr. Ouais, ouais.
Je pense que c'est pas pour rien que je fais de la musique non plus.
Ouais, ouais.
Mais oui, effectivement, je pense que la séduction, j'en ai besoin quelque part parce que, bon, ça me fait aussi remonter un peu mon ego.
Mais même, en fait, tu sais, t'es dans la séduction avec les mecs, hein, pas du tout la
oui,
même
non,
séduction.
Non, puis même, oui, oui, pas la même séduction, mais avec les mecs aussi, oui, bien sûr.
Mais parce que justement, ouais. quand on est dans la séduction ouais. avec quelqu'un, souvent, c'est pas juste parce qu'on a envie de niquer avec la personne.
Non, non,
c'est souvent parce qu'on a envie d'être aimé et qu'on vient, ça vient
ouais.
flatter notre ego
ouais,
et tout.
Ouais.
Et je trouve que c'est juste ce que tu dis parce que tu es comme ça.
Ouais.
Tu es comme ça.
Ouais.
Mais effectivement, je trouve que t'as un... Je dirais pas que t'as un rapport particulier avec les femmes, je pourrais pas dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les femmes. Je ne saurais pas comment l'expliquer.
Ça a été toujours la source. Je pense qu'il y a un rapport avec la mère. Enfin bon. Bon, après...
Certainement.
Voilà. Après, c'est vrai que j'ai un peu...
Ça te fait chier de revenir à ça comme explication?
Voilà, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychologie arrive un peu comme discussion de comptoir, un peu assez facile, je veux dire. Enfin, ouais, un
ouais.
peu facilement, parce qu'il y a aussi, bon, une recherche de soi, du bonheur, une dictature du bonheur aussi, qu'il faudrait être heureux tout le temps, chose qui est profondément agaçante, je trouve.
Mmh.
À la fois, c'est quelque chose que la société veut, et à la fois, c'est quelque chose dont personne ne se retrouve dedans.
Dans le bonheur.
Dans cette espèce, alors pas dans le bonheur, mais dans cette espèce de il faut être heureux tout le temps, il faut être bien, il faut travailler, il faut machin, il faut etc. Et en fait, la vie, je pense que c'est profondément, je pense que c'est pas ça.
Mm-hmm.
Je pense que justement, le cheminement de la vie, il est fait par des moments de bonheur, des moments de malheur. Et c'est pour ça, quand moi, on me pose la question est-ce que je suis heureux, je dirais que bah, là, aujourd'hui, maintenant, avec toi, oui, je suis heureux. Peut-être que demain, je serai malheureux et peut-être que voilà. Et en fait, c'est la vie qui est faite comme ça et je trouve qu'elle est belle comme ça aussi.
Oui, après, si on peut rentrer un peu dans l'intime, sans rentrer dans l'intime, mais tu vois, on s'est eu au téléphone il y a une semaine à peu mmh. près, et que effectivement, on parlait de toi, de comment tu te sentais et tout, et c'est vrai que t'as souvent un peu, au premier abord, tu dis « mais non, mais ça va, c'est bon, en fait, on est tous comme ça, et puis ça arrive », parce que j'imagine que c'est un peu un mécanisme de défense aussi, ou alors de se rattacher à « bon, écoute,
alors...
on a tous des problèmes dans le couple et tout », et alors attends, c'est juste que tu vois, quand je t'ai eu au téléphone, et qu'à un moment, je t'ai dit « est-ce que t'es heureux ?», tu m'as dit « non, je suis pas heureux, je suis pas malheureux », et tu m'as dit cette phrase qui,
ouais.
moi, m'a un peu touchée. Tu m'as dit, je me sens engloutie par la vie, en fait. Ouais. Tu m'as dit ça.
Ouais, complètement.
Et,
ouais.
Et je me suis dit, putain, mais en fait, il va mal, tu vois. Et en fait, peut-être que c'est pas ça.
Alors...
Bah, enfin, tu vois, et ouais. Puis même juste pour revenir sur un autre truc, c'est que tu dis, ouais, moi je suis pas en dépression et je veux pas qu'on dise que je suis en dépression.
Ouais.
Et pourtant, quand on s'est eu au tel il y a une semaine, tu m'as dit, bah en fait, si.
Alors, ouais. En fait, ce que j'ai vécu là récemment, ça a été quelque chose d'assez différent. C'était des problèmes de couple, comme ouais, encore ouais. Une fois beaucoup de gens, etc. Et puis, je me rendais compte aussi de ma place de père. Ce qu'on a fait beaucoup pendant 4 ans et demi pour Billy, qui est notre fille. J'ai monté beaucoup de choses aussi en ouais. Parallèle. Je pense que j'ai beaucoup fait, beaucoup pris sur moi, encore une fois. Que là, il y a eu un peu un stop. Et puis, je vais re-être papa. Et donc, je pense que tout ça, ça m'a un peu perturbé. Effectivement, oui, j'ai eu un petit épisode là de dépression, etc. Mais qui s'arrange, voilà, mais qui n'a rien à voir avec l'angoisse que j'ai pu vivre avant.
C'est décorrélé pour toi, c'est vraiment deux choses.
C'est deux choses différentes. Et alors, effectivement, quand on me demande les choses, je les dis et je les dis sans trop de filtre, avec mes mots. Mais c'est surtout que j'ai mes garde-fous avec qui je parle. Et c'est pour ça que, parce qu'en fait, sinon, je vais avoir beaucoup de conseils différents, de choses
qui vont.
Voilà. Et ça, moi, ça, c'est pas que ça me saoule, c'est que ça me perturbe plus qu'autre chose. Voilà, j'ai besoin d'avoir mes référents que j'ai depuis toujours, des choses que j'ai mis en place, qui ont fait leurs preuves. Hein, et...
Tu parles notamment des psys ?
Ouais, complètement. Ouais, je parle de ma psychiatre et de ma psy qui ont changé aussi. Hein, voilà, parce que j'avais envie de changer à des moments, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai. Parce que après, on me donne des conseils. Oui, mais pourquoi tu n'irais pas voir mon coach et mon machin et mon truc. Et voilà.
Je sais de qui tu parles.
Voilà, ouais. Et tout ça. Bon, voilà, moi, c'est pas du tout. Moi, j'ai cette notion de coach pour tout m'agace profondément.
Ouais, voilà. Ouais. Mais en tout cas, voilà, toi, t'es pas dans un truc où t'as besoin d'avoir tes amis ou ta meuf. Pour parler de ça, t'as tes psys, t'as tes garde-fous, comme tu dis.
C'est ça.
Et c'est ça qui te crée ton équilibre.
Absolument,
Alors, juste à côté de toi, bon, en fait, il est pas là, le dé. Il est parti. Il est en vacances. Bon, il y a un dé qui arrive dans pas très longtemps. Avec sur chaque face, il n'y a pas des chiffres, mais des couleurs. Rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Et chaque couleur correspond à une émotion. Et chaque émotion est reliée à une question intime. Je te propose de lancer l'intimidé pour qu'on découvre ensemble ta couleur et ta question. Le petit dé, tu choisis celui que tu veux.
L'intimidé.
Mais quel bien sûr.
Extraordinaire. Bon, je lance ouf.
Comme tu veux.
Je vais être riche.
Non, on va pas gagner d'argent, Benjamin. Alors, bleu. Si tu te réveillais demain avec un super pouvoir, tu aimerais que ce soit lequel ?
Oh, voler.
Voler ?
Oh, voler.
Pourquoi ?
Mais parce que je suis passionné d'aviation.
Ouais, ça c'est vrai que t'adores.
Ah bah oui, mais non, mais bien sûr. Déjà, je conduis des paramoteurs.
C'est vrai. Le mec est chauffeur de paramoteurs, quoi.
Un chauffeur de paramoteurs, en plus des avions.
Ouais.
Tout ça. Ah non, ça, ouais, voler.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui
cette sensation de liberté, d'aller à droite, à gauche, quand on a envie de monter, de descendre.
C'est vrai que ça doit être fou, hein.
Ah bah ouais, c'est fou.
Ouais.
Ah non, c'est vraiment fou.
Donc t'aimerais bien être un genre de... C'était qui volait avec la cape ? C'est Batman ? Non, c'est pas Batman.
Superman,
t'aimerais bien être Superman ?
Bah oui.
Et comme ça, tu sauves des vies en même temps ?
Clark Kent.
C'est vrai que c'est pas mal. Ok, vas-y, tire une fois encore le dé.
Vert.
Quelle est ta plus grande réussite dans la vie ?
Alors attends... J'ai pas envie de dire un truc bateau parce que c'est bon, forcément c'est Billy, forcément
ouais,
ma fille,
ta fille
c'est ma plus grande réussite. Après ma réussite personnelle à moi en tant qu'individu et pas en tant que papa, etc. C'est d'être encore là aujourd'hui justement pour et d'avoir réussi à cheminer malgré tout.
Ouais.
Ouais. Et d'être passé par toutes ces étapes et qui ont été vraiment 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 difficiles.
C'est ce qui te rend fier de toi de te dire que t'as réussi à surmonter tout ça.
Ouais.
Et de maintenant...
Ce qui me rend quand même assez confiant et libre. Ouais, libre. Parce qu'en fait, encore une fois, pour faire le parallèle avec ce que dit l'autre invité de la dernière fois, que je m'en fous, en fait, d'être... Enfin, j'ai pas besoin d'un palace ou quoi que ce soit pour me sentir bien. Je pense qu'il faut être bien avec soi. Et ça, c'est un vrai... C'est un vrai, enfin c'est quelque chose qui s'achète pas en fait.
Complètement.
Voilà.
Enfin si ça s'achète avec le psy.
Oui,
mais bien sûr.
Mais bon c'est
bien sûr.
C'est voilà.
Oui, c'est le truc le plus important à tes yeux et au mien d'ailleurs. Ouais. Tu peux le faire une dernière fois le petit dé. Dernière question. Moi je sais, il y avait beaucoup de questions.
Bleu,
mais on l'a pas déjà fait.
Non, si
on l'a déjà fait. Eh ben tu retires le dé, Ben.
T'as pas de questions.
Bah non, on a une couleur par question.
Orange.
Enfin on a une question par couleur. Un truc un peu léger. Tu peux passer un dîner avec qui tu veux dans le monde. Tu choisis qui. Tu peux dire moi, il n'y a pas de problème.
Non, je dirais pas toi.
Bah, attends, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit
ensemble. Ah non, si, parce que là, quand même, parce que je m'intéresse beaucoup à l'avenir de la planète.
D'accord, ok. Et,
non, c'est vrai.
Cyril Dion. Hugo
pas
Clément.
Du tout. Non, non. Tu vois, un.
Pierre Rabhi,
bien recevoir un Elon Musk ou un truc comme ça pour lui dire putain, mais tu te rends compte quand même.
Ouais.
Tu te rends compte que ton idée là d'aller rassembler 10 mecs pour aller sur Mars ou de faire autant de profits et de niquer autant de choses. Enfin, tu te rends compte que c'est quand même pour nos descendants, etc. Une belle stupidité quoi.
Ouais.
Voilà.
Ouais, t'aimerais bien lui dire ça.
Ouais, j'aimerais
dire
bien
un peu
dire
les quatre vérités à Elon Musk.
Ah ouais.
Qui est Elon, bien sûr.
Bah non, mais c'est vrai quand même, merde.
Ouais, ouais, non, mais c'est. Je trouve ça, moi, je pensais que t'allais plutôt me dire un artiste, tu vois.
Oh non, je m'en fous, maintenant, je veux plus des artistes.
C'est vrai?
Non, j'adore les artistes, mais j'aime plus ce mot, j'aime
ça te fait chier, ce mot?
Ouais, ça me fait chier, on fait tous un métier, on essaye tous de faire des choses qui nous plaisent, de raconter ce qu'on peut raconter. Après, j'ai plus de trucs, j'adore quelqu'un, non, je m'en fous.
Et puis, tu t'es détaché quand même de la musique, je trouve. Même si tu en fais encore maintenant.
Oui.
Moi qui t'ai connu à l'époque où tu donnais des cours de guitare.
Oh là là.
Donc, ça remonte, tu vois.
Ouais, carrément.
T'avais pas du tout le même rapport à la musique que maintenant et aux artistes, aux fanettes. Enfin, ouais.
Ouais, carrément, ouais.
On va revenir un petit peu à cette histoire d'angoisse et de dépression. Non mais Ben, écoute, je sais que t'aimes pas le mot dépression, je sais que t'as pas envie de parler de ça, mais on est là quand même pour ça. C'est vrai que la dépression, c'est un terme devenu hyper courant, presque un peu banal, genre « Oh putain, je suis en dépression », c'est devenu un peu banal, qu'on a tendance à utiliser du coup un peu au moindre coup de blues. Et la déprime est un état passager, contrairement à la dépression, qui se caractérise par des symptômes caractéristiques et durables. C'est clair que c'est hyper important de le dire, parce que on peut, et c'est ce que je disais avec Sidonie la dernière fois, on peut être dans un état dépressif sans être dépressif. On peut être dans un état de déprime sans être en dépression. C'est hyper important de le dire. Est-ce que justement, quand t'es un peu dans des crises d'angoisse, dans des crises de panique, il y a des choses que tu mets en place pour tenir le coup? Et est-ce que t'élabores un peu des stratégies conscientes ou inconscientes, tu vois, pour te mettre un cadre de...
Alors ouais, ce que je fais, maintenant que je connais un petit peu ça, déjà j'attends de voir un peu si c'est passager ou pas, si ça va commencer à s'installer vraiment ou pas, parce que je suis pas non plus un fan des Xanax et tout ça, donc
bah, bon, oui.
Voilà, si je peux éviter d'en prendre, j'en prends pas. Donc j'attends de voir une semaine, et puis si ça continue, deux semaines. Bon, là je commence à en parler un peu à mon entourage très proche, ça va être ma sœur, ma mère, ma femme... pour un peu préparer le terrain.
Mais c'est-à-dire, tu leur dis juste, là, je crois que je me sens pas bien?
Ouais, je leur dis un peu, ouais, là, je me sens pas bien, machin, tout ça. Je reprends rendez-vous avec ma psy, j'essaie de comprendre aussi ce qui se passe.
Mais ta psy, tu la vois plus une fois par semaine, là, maintenant?
Là, je l'ai revue, là, une fois par semaine, à partir du mois d'août.
Ouais.
Et là, je la vois une fois toutes les deux semaines.
D'accord.
Voilà.
Mais alors, du coup, c'est quoi les mécanismes que tu mets en place? Est-ce qu'il y a des trucs, quand tu sens que ça va pas bien, donc t'en parles un peu autour de toi, de tes proches?
Ouais.
Est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, ok, je dis n'importe quoi, je vais porter cette chemise, je vais manger telle chose?
Alors, avant, j'avais ça. Avant, j'avais ce truc de, en fait, je mettais genre un caleçon parce que je pensais qu'elle allait m'aimer si je mettais et que je pensais que sinon ça se passerait pas bien si je mettais ces chaussettes là, enfin ça quoi. Voilà. Alors ça, j'ai plus ça, donc ça c'est bien. Mais non, vraiment, voilà, ce que je mets en place, c'est ça. Et puis les étapes, ça va être voir un peu si ça dure, si ça s'installe. Si ça s'installe, je commence à préparer le terrain un petit peu pour dire aussi ce qui se passe, parce que bon, c'est pas forcément évident de cacher tout le temps ce qui se passe. Et ensuite, je vois la psy. Et puis après, si ça va vraiment pas, je vois la psychiatre avec qui, là, par exemple, j'ai changé mon traitement.
Ouais.
Parce que, effectivement, à un moment, les molécules ne font plus d'effet. Ça arrive aussi.
D'accord.
Au bout de pas mal d'années, je prenais de la paroxétine, par exemple.
D'accord.
Et typiquement, là, ça ne
fait. Ça faisait plus effet.
On a essayé de changer et je change, ça va mieux. Donc
d'accord.
Après, faut jamais s'inquiéter. Enfin, le seul conseil que je pourrais donner à d'autres gens, c'est de pas s'inquiéter. Il y a toujours des solutions. C'est pas grave, mais qu'il faut aller voir des gens qui connaissent ça. Et des gens qui connaissent ça, ça reste quand même des psychiatres et des gens qui sont confrontés à des grosses pathologies, des petites pathologies, des divorces, des choses qui arrivent. Donc il faut pas hésiter quoi. Vraiment, c'est.
Moi, je voulais parler un peu des médicaments parce que ça fait 10 ans que t'en prends et ça fait depuis que je te connais que tu en prends.
Ouais.
Ça, maintenant, ça fait partie de ta routine. Enfin, comme un médicament que tu prends tous les jours. Est-ce que tu sens que tu vas en prendre toute ta vie? Ou est-ce que tu aimerais arrêter un moment? Parce que je me souviens, sans rentrer dans trop les détails, il y a longtemps, on n'était plus ensemble. À un moment, t'es venu à la maison et t'avais plus de médicaments. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode-là.
T'es venu
à la maison, t'en avais plus et tu t'es mis en larmes. T'es tombé en larmes et dans un état de putain, j'ai plus mes médicaments, comment je vais faire?
Parce que j'étais pas bien en plus à cette époque-là et donc j'avais besoin et c'est vrai que
je. Ouais, je comprends. Mais est-ce que maintenant, il y a des moments où tu dis en fait, j'ai plus envie de prendre ça, j'ai envie de sortir de cette dépendance-là, ou alors c'est OK pour toi?
Ah non, mais bien sûr que des fois j'en ai marre, ça me saoule de, je sais pas, quand je pars sur une date à droite à gauche, machin, etc., j'ai pas envie, ça me fait chier de reprendre encore ma boîte de trucs, j'ai l'impression d'être un yeuve, tu vois, qui prend son pilulier, enfin bon, bref. Mais après, je me dis, écoute, si c'est le prix du bonheur, franchement, ouais. Et j'en ai rien à foutre, en fait.
D'accord.
Et voilà, c'est une pilule à prendre le matin. Enfin, bon,
oui, mais parce que tu vois, tu disais à l'époque, je sentais que sans ça, en fait, c'était pas possible. Est-ce que maintenant, tu penses que sans ces médicaments...
Ah non, je pense que non, clairement non.
Non.
Ah non, je
là,
sais que...
Là, tu serais vraiment dépressif, profond, si t'avais pas ces médicaments-là.
Non, pas forcément, mais en tout cas, je ces épisodes d'anxiété généralisés très forts...
Tu les aurais plus, quoi.
Ah ouais, non, mais reviendraient, et puis pour en sortir, enfin non... Enfin, tu vois, j'ai pas envie de jouer à ça, quoi. En fait, je perds du temps, je perds de l'énergie. Enfin,
Donc, pour toi, juste travailler avec un psy n'est pas suffisant quand on est dans ces états-là.
Ah, alors, quand on a la bonne béquille et le bon médicament, la bonne posologie, et que ça va, et connaître aussi son fonctionnement à soi, c'est-à-dire là où on met ses limites, encore une fois.
Parce que je vais dire quelque chose qui va peut-être, à mon avis, il va y avoir deux teams dans les gens qui vont écouter, et je pense que je peux peut-être m'en prendre plein la gueule, mais parce que je m'y connais pas beaucoup, mais je vais quand même le dire, j'ai la sensation que parfois, je me gourre peut-être total parce que j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, j'ai la sensation que parfois... Donner des médicaments n'est pas forcément la solution à tout. Moi, tu vois, j'ai fait une pseudo-dépression postpartum, donc ça a été vraiment très épisodique. Ouais. Et en fait, j'étais à deux doigts d'en prendre des médicaments. Mmh. Et j'ai préféré voir ma psy deux fois par semaine. Ouais. Et en fait, ça m'a sauvée de ce moment-là. Mais j'avais l'impression, et c'est ma vision du truc, mais j'avais l'impression que de prendre des médicaments était un peu une situation d'échec pour moi. Tu vois, il y avait un peu un aveu de faiblesse de se dire j'ai besoin d'un petit médicament pour aller mieux.
Ouais.
J'aimerais bien que tu me dises un peu ce que t'en penses de ça, parce que j'avoue que j'ai mis un mini jugement là-dessus, et je pense que c'est un jugement de merde, et je pense que je suis pas la seule, en fait.
Alors, effectivement, c'est pour ça que moi j'en parle peu, et que, en fait, très honnêtement, quand je suis arrivé ici dans le studio, j'avais pas envie, en fait, d'en reparler, de reparler tout ça, parce que j'en parle peu, en fait, finalement, aux gens, parce que je trouve qu'il y a un vrai jugement sur... Il y a un vrai jugement, un jugement très très fort par rapport aux psychiatres, à leur travail, et que finalement on ne connaît pas, on fait comme si on connaissait, mais que finalement les gens ne connaissent pas, les gens ne savent pas. C'est pas parce qu'on va prendre un petit médicament qu'on va le prendre toute la vie, on peut le prendre pendant 3 mois, après arrêter, enfin voilà, ça n'a...
Bien sûr, oui.
Ça n'est pas...
Non, c'est une béquille, en fait, voilà, comme tu dis, c'est une béquille.
Voilà, c'est ça. Et en fait, on a le droit aussi d'être malheureux, et on a le droit de ne plus savoir comment faire pour s'en sortir, en fait. Et on a le droit d'être au bord
et
du
gouffre. Et c'est pas un aveu de faiblesse, quoi.
Et c'est pas un aveu de faiblesse, en fait. Au contraire, c'est justement un aveu de courage et de force.
C'est vrai, t'as raison.
De dire, OK...
je reconnais avoir besoin d'aide.
Alors, par exemple, toi, t'as de la dépression postpartum, bon, bah, peut-être que ça t'a suffi aussi. Il y a des gens à qui ça suffit. D'aller voir deux fois le psy pendant 1 mois, 3 mois. Bon, bah, c'est très bien pour eux, tant mieux pour eux. Il y en a d'autres à qui ça ne suffit pas. Bon, ouais.
Non, mais c'est vrai que t'as raison. Je pense qu'en fait, j'ai mis un petit jugement parce que je m'y connais peu et que malheureusement, je pense qu'on est beaucoup dans mon cas à penser comme ça. Ouais. Alors qu'en fait, t'as dit un truc très très juste. En fait, c'est aussi un peu un aveu de courage de se dire en fait, là, j'ai besoin d'aide. Là, je sais que ça va pas et j'ai besoin d'avoir des médicaments. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on change un peu effectivement ce point de vue là parce que c'est pas un aveu de faiblesse en fait. L'aveu de faiblesse. Puis déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Mais juste déjà reconnaître que ça va pas, c'est déjà bien. Et puis,
Tu vois, par exemple, là, c'est drôle en plus, parce que je reçois à la maison quelqu'un que je connais très bien, qui est très mal depuis 3 mois, mais très mal, parce que suite à une rupture amoureuse, etc., qu'il ne sait pas comment faire, qu'il dort pas, et qui se fait soigner par des plantes, mais qui est dans un état catastrophique, en fait. Je suis pas du tout contre la naturopathie. Enfin, en vrai, je m'en fous. Mais en fait, à un moment, quand les gens sont dans une telle détresse psychologique, il faut... Putain, en plus, les choses peuvent être tellement faciles quand elles sont bien orientées, etc., que qu'une fois qu'on s'adresse aux bonnes personnes, les choses se règlent très rapidement.
Et est-ce que justement, ça tombe plutôt bien, est-ce que toi, t'as des gens autour de toi qui sont en dépression, qui sont dépressifs
ça m'est arrivé de voir des gens dans des états... Enfin, je ne sais pas s'ils étaient en dépression, je ne suis pas médecin, donc je ne le dirais pas, mais dans des états psychologiques qui duraient depuis quand même assez longtemps et qui ne voulaient pas, parce que peur du jugement, peur de... qu'on leur dise qu'ils sont fous, etc. Alors qu'en fait, ce ne sont que... ce qui se passe, en fait, finalement, dans notre cerveau, ce sont que des réactions chimiques et que c'est nos pensées qui font ces réactions aussi chimiques-là, qui les guident. Et donc, il faut connaître, c'est comme, je sais pas, quand on va parler du climat et qu'on va dire, il y a des anti-nucléaires, il y a des anti-machins, mais en fait, les gens ne prennent pas la conscience de la globalité des choses. Mmh. C'est-à-dire de ce qu'on a besoin en termes d'énergie aujourd'hui pour fonctionner. C'est intéressant de savoir aussi le mécanisme de l'être humain. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, peut-être par flemme, peut-être par pas envie de savoir.
Par peur aussi, peut-être d'en apprendre trop.
Par peur. Puis par parce que le monde devient de plus en plus simple aussi.
Ouais, de plus en plus simple.
De plus en plus, on fait moins d'efforts pour essayer de connaître des choses.
Je suis pas d'accord, moi. Je trouve justement qu'on rentre de plus en plus dans une période où des gens libèrent la parole. Tu vois, j'en parlais avec qui ? Ah, j'étais en interview pour un média. Mmh. Et elle a dit un truc très juste, c'est que qu'elle trouvait, que du coup moi aussi, qu'à l'époque, en fait, si on connaissait pas un sujet, on se taisait. Alors que maintenant... Ouais. De plus en plus, on libère la parole surtout. Donc, je trouve au contraire, tu vois, qu'il y a un truc où on déconstruit aussi vachement plus les pensées qu'avant.
Et ouais, mais le problème, c'est que effectivement, donc on va laisser des gens parler qui ne connaissent pas forcément des choses, mais qui ont des convictions très fortes sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est aussi dangereux parce que ça laisse place à beaucoup de.
Oui, c'est vrai.
Voilà, moi, c'est un peu ce que je pense. Mais en tout cas, voilà. Enfin, le seul conseil que je pourrais donner à des gens qui sont un peu en détresse psy, c'est il y a plein de choses qui existent, des CMP, des hôpitaux de jour, enfin des trucs qui sont déjà totalement gratuits avec des gens vraiment compétents qui peuvent en plus donner des clés pour vraiment s'en sortir, quoi. Mmh. Et éviter d'aller tout de suite en HP parce qu'on a fait une connerie ou que machin.
Est-ce que toi, t'as l'impression parfois que les gens ne comprennent pas ce que tu vis ? Est-ce que t'as l'impression parfois d'être genre seul dans ton bateau, tu sais, et que parce que parfois t'es dans cette souffrance psychique, tu la partages, tu en parles, etc. Mais est-ce que t'as la sensation parfois d'être tout seul et de dire putain, les gens ne comprennent pas ?
Bah ouais, complètement, mais c'est pour ça que j'en parle plus. En fait, c'est pour ça que j'en parle plus aux gens, parce que j'en ai marre de leurs conseils.
Parce que tu les trouves pas bons.
Non, je les trouve. Parce que j'ai essayé beaucoup de choses en plus. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir des coachs, bref. Donc tout ça, ça m'a pas du tout convaincu. Puis j'ai pas envie de refaire l'historique, quoi. Enfin, j'ai envie de faire l'historique si ça peut aider des gens, oui. Mais pour qu'on me donne des conseils ou qu'on me dise fais ci, va faire ça, tu penses que tu devrais peut-être essayer ça? Voilà, c'est
parce que justement, t'as la sensation de pas être compris. Tu t'es dit, en fait, flemme d'en parler à des gens qui ont donné des conseils de merde, qui me parlent pas.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais est-ce que, à la fois, tu te dis, en fait, j'en parle plus parce qu'on comprend pas et que les conseils qu'on me donne sont nuls. Mais est-ce que, du coup, t'as pas l'impression que tu te mets un peu de côté? Parce que, tu vois, quand on s'est eu au tel il y a une semaine, on parlait d'un pote en commun qui te donnait des conseils et tu disais, ouais, mais en fait, ça me saoule parce que là, vu que je vais pas bien, tout le monde m'appelle et me dit que ça va pas et qu'on me donne des conseils. Ouais. Et je t'ai dit, oui, mais en même temps, tu peux aussi te dire que les gens qui t'appellent, c'est des gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi. Et tu m'as dit, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. Mais attends, ça veut dire que je compte pour des gens et c'est machin, tu vois, et t'étais rentré dans un autre truc.
C'est vrai, après, tu sais, les gens, c'est aussi, ça peut être super et ça peut être terrible à la fois parce qu'ils te mettent aussi leur pression qu'ils ont, eux.
Bien sûr.
Et leur projection à eux, ce qui a marché pour eux. Et moi, encore une fois, je dis pas que ce qui marche pour moi marchera pour tout le monde. Ce que j'ai en retour, c'est souvent ça. C'est soit pas bon, soit des choses qui ne me correspondent pas, soit des choses qui vont être allez, va faire ça, allez, vas-y. Mais pourquoi tu le fais pas? Mais putain, pourquoi tu le fais pas? Merde, tu vois.
Et puis, c'était aussi facile que ça, aussi voilà, tu vois, il y a aussi cette chose-là. Quoi. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y a un truc que tu disais un peu plus tôt, c'est que, en fait, t'as trouvé ton garde-fou, et ça, c'est hyper important de le dire pour les personnes qui nous écoutent et qui sont soit en dépression, soit dans des états anxieux, dans des troubles, etc. C'est hyper important d'avoir un peu ces béquilles, d'avoir un peu des gens où on sait qu'on peut être entendu, qu'on va pas être jugé, et que leur conseil, ou en tout cas leur avis, va être vraiment bénéfique.
En fait, leur rôle, c'est simple, c'est que leur rôle, c'est purement et simplement que tu ailles mieux. C'est-à-dire que tu sortes la tête de l'eau.
Ouais.
Parce que, en fait, il y a un truc dont on se rend pas compte aussi. C'est si on laisse ces états s'installer, on ne peut pas vivre avec ça. C'est-à-dire que on est terriblement en souffrance.
Bah, t'es en handicap constant, quoi.
Mais voilà, c'est ça. Et puis, c'est même pas, enfin, c'est un handicap, c'est une perte totale des signes de soi.
Ouais.
On a juste envie de mourir, quoi.
Ouais.
Et en fait, bah, il y a des gens qui vont passer à l'acte, c'est-à-dire faire des tentatives de suicide, de trucs comme ça, et qui vont se retrouver en HP 3 mois, alors qu'en fait, s'ils avaient pris le truc un tout petit peu avant, avec les bonnes personnes, le bon corps médical autour, eh ben en fait, ils auraient évité tout ça.
T'as déjà fait, toi, des tentatives de suicide ?
Non.
T'as jamais
pas
fait ?
Pas du tout, non.
Ça t'est jamais passé
Si, ça m'est, bien sûr, ça m'est passé, et puis, mais j'ai une culture un peu judaïque qui me l'interdit, entre guillemets, c'est un peu mon épée de Damoclès, quoi, qui est, enfin, c'est un peu,
enfin, non, que,
enfin,
tu t'imposes, c'est... un peu toi au final,
voilà,
parce
que je me dis voilà, non, c'est je sais que ça passe, en fait, je sais que ces choses là passent, et que voilà, et que ça va aller mieux, mais c'est vrai que des fois il y a eu des moments très difficiles.
Ouais. Mais t'as jamais eu envie de mourir, quoi?
Je l'ai pas fait, parce que je croyais, mon père avant de mourir m'avait dit, je me souviens de quelques phrases, hein, de ce qu'il m'avait dit, tout passe.
Bah, je dis ça tout le temps.
Ouais. C'est très dur, en fait, d'y croire quand on est en détresse.
Ouais.
Voilà.
Non, mais effectivement, quand tu dis tout passe, ce que ton père t'a dit est très juste, parce que moi, on me l'a dit aussi quand j'étais en pseudo-dépression postpartum, quand on est dans ces états d'angoisse-là, je ne dis pas que l'angoisse ne reviendra plus jamais de notre vie, mais qu'en fait, les états très durs d'handicap où on se sent, en fait, en train d'être sous l'eau et qu'on va être englouti, machin, en fait, ça passe.
Mais complètement.
Et ça passe parce que tout ça, c'est que des phases, en fait. On est que dans des périodes de transition tout le temps.
Absolument.
Et c'est assez juste que tu dis... En fait, quand tu parlais, je rebondis juste sur ce que tu disais un peu plus tôt, quand tu parlais un peu de cette injonction au bonheur, de, bah, il faut être tout le temps heureux, on n'a pas le droit d'être malheureux, de machin. Mmh. Et que quand tu me disais il y a une semaine, bah, là, je suis pas heureux, mais par contre, je suis heureux d'être là avec toi, c'est très juste.
Ouais.
Parce qu'en fait, le bonheur et le malheur, il est pas constant.
Bah, ouais.
C'est un truc qui bouge beaucoup. Mmh. Et c'est hyper important de le dire, parce que il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui croient que le bonheur doit être constant,
mais
ou le malheur doit être...
Mais oui, c'est terrible. C'est ce truc de réseaux sociaux aussi. C'est, enfin, bon, je veux pas faire le vieux con, mais... Bon, faut
t'as un peu un vieux con, on va pas se mentir, quand même.
De quoi ?
T'as un peu un vieux con, on va pas se mentir.
Non, mais bon, faut être mince, faut être... Et puis quand on n'est pas mince, bah bon, du coup, faut être à l'opposé, faut être gros, assumer qu'on est gros, enfin bon... Il y a toute une espèce de dictat de ce qu'il faut être, quoi. C'est putain, mais foutez-nous la paix, quoi.
Ouais,
enfin, tu vois, à un moment, oh merde, quoi. J'ai pas besoin de dire à tout le monde qui je suis, quoi.
Mais tu sais, les gens ont besoin de mettre les autres dans des cases pour se les approprier.
Ça.
Moi, tu vois, tu parles de poids et tout. Moi, pendant très longtemps, on m'a dit que je prenais le body positive. Je dis, mais j'ai jamais parlé de ça. C'est juste qu'en fait, je suis grosse et que je pose nu sur les réseaux sociaux parce que ça me challenge. Mais en fait, si j'étais mince, ce serait certainement la même chose.
Ouais.
Donc on met les gens dans des cases parce que ça, ils se rassurent eux-mêmes là-dedans.
Ouais,
mais je suis d'accord avec toi. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire, mais c'est un peu une phrase à la con.
On ne conclut pas.
Mais faut qu'on conclue.
Oh non,
on va pas faire un épisode qui dure 4 heures.
D'accord.
Tu veux nous parler de quoi ? Tu peux nous parler du paramoteur ?
Ah oui, là.
Non, vraiment, ça n'intéresse personne.
vous êtes nuls, vous avez.
Non, mais
regardez sur Google paramoteur, vous allez voir.
On regardera sur Google, c'est promis. C'est un peu une phrase à la con et en même temps pas tant. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu vois la suite ? Et comment tu vois ton avenir ?
Bon, pour être très honnête, je pense que je prends pas beaucoup soin de moi.
Je suis d'accord avec toi.
Bon, ça, on est d'accord tous les deux. Écoute, moi, j'ai quand même mon père qui est mort à 62 ans. J'étais pas mal confronté quand même à la mort. Comme tout le monde, hein, nos grands-parents, nos machins, tout ça. Et en fait, cette mort-là, elle me fait de moins en moins peur. C'est-à-dire que Ouais. En fait, moi, ce qui est primordial pour moi, c'est de donner des choses à mes filles, qui sont des choses importantes, d'essayer d'être heureux comme je peux. Puis bon, bah, il y a certainement un petit cancer qui va nous tomber dessus à un moment.
Un petit quoi ?
Petit cancer qui
Pourquoi
va nous tomber dessus.
Pourquoi tu dis ça ?
Bon, parce que je pense pas que je vivrai très longtemps. Enfin, je me vois pas vivre très longtemps.
Ah bon ?
Et puis encore, ce truc d'angoisse.
Attends. Quoi ? Tu te vois pas vivre très longtemps parce que tu n'as pas envie de vivre très longtemps ?
Non, je pense que j'ai pas envie de vivre très longtemps.
D'accord.
Je pense que j'ai pas... Non, je vais pas... Enfin, je pense que... Bah, c'est fatigant quand même de vivre. Hein.
C'est vrai.
C'est fatigant.
Vrai. C'est vrai.
De
c'est
passer
fatigant.
Par tous ces trucs-là, de machin, de... Enfin, voilà.
Et que pour toi, peut-être la mort, c'est aussi la paix.
Ah bah ouais, carrément.
Ouais.
Ah ouais.
Ça t'angoisse pas de mourir ?
De moins en moins.
Putain, quelle
de
chance.
De moins en moins. Moi, je voyais mon père... Je revois mon père mort sur le lit. Et je vois une espèce de... Mais à chaque enterrement, hein, je ressens ça, c'est une espèce de... Putain, de soulagement. Sérénité, quoi. Ah ouais, mais un truc hyper serein.
Mais c'est fort que tu dis ça, parce que ouais. moi, j'ai de plus en plus peur de la mort et de la vieillesse et de la maladie, en fait. La vieillesse, ouais. c'est autre chose, parce que c'est plutôt le corps qui a une date de péremption, tu vois, le date, voilà. Mais sauf que moi, la maladie, c'est un truc, et je le travaille avec ma psy, mais ça m'angoisse terriblement. Parce que la mort en soi, tu peux mourir dans ton sommeil et c'est super.
Ouais.
Mais, en fait, de se rapprocher de la mort... Moi, je sais que c'est un truc qui m'angoisse de plus en plus.
Ah ouais.
Et qu'en fait, que tu dises, mais finalement, la mort, c'est la paix, et c'est un soulagement,
oh ouais.
c'est vrai. Sauf qu'en fait, il y a la phase avant la mort, qui parfois, c'est... On meurt souvent de maladie maintenant.
Bah ouais, carrément.
On meurt pas
avant,
de moins en moins.
On meurt à 40 ans.
Ouais. Mais toi, en tout cas, c'est pas un truc qui t'effraie, quoi.
Non. Enfin, de moins en moins. Alors, attention, quand je... Bah, je sais quand même que j'ai des réflexes humains, tu sais, de...
De défense, de genre, d'instinct de survie.
Quand je sens que je fais qu'il peut se passer un truc grave, je fais très... Enfin, voilà, j'ai, bien sûr, j'ai le cœur qui bat et je suis pas non plus...
Ouais.
Mais j'ai moins peur de cette... Non, je prends la mort vraiment comme un espèce de... Elle est cool, quoi.
Ouais.
Voilà, on laisse la place.
Et est-ce que, pour terminer, vraiment, tu penses que c'est OK pour toi de finir ta vie, enfin en tout cas de vivre encore quelques années dans cet état d'angoisse, même si c'est pas permanent, mais de dire en fait jusqu'à la fin, je sais que j'aurai des périodes d'angoisse.
Ah bah
est-ce que ça t'angoisse encore plus ou t'es plutôt ok, ça fait partie de moi.
Mais ça me fatigue profondément, ça me fatigue parce que c'est chiant d'en passer par là à chaque fois.
Ouais.
Mais c'est un peu un défi, un challenge de dire ok, maintenant je sais un peu pourquoi j'ai ces angoisses. Je sais que j'ai certainement aussi peut-être, comme je le disais, ce qu'on a vu avec la psychiatre, un peu de manque de sérotonine, de machin, qui font que bah c'est ce que je suis aujourd'hui. Mais un peu la flemme quoi de repasser encore par tous ces trucs là, mais en même temps je sais aussi pourquoi j'y retourne dedans, parce que encore une fois j'ai laissé trop de choses s'installer qui étaient pas où j'ai pas mis les limites. Des choses me submergeaient dans les relations amoureuses notamment.
Ouais. Donc en fait il faut que c'est pas te donner un conseil, mais en gros il faut que t'apprennes à mettre plus de limites pour éviter de retomber dans tes angoisses.
Ouais, c'est ça.
Sauf que c'est pas
donc
facile.
C'est un beau challenge.
C'est un énorme boulot.
Ben, en fait c'est surtout s'écouter, c'est surtout savoir c'est savoir qui on est.
Oui, et puis juste pour faire un mini parallèle, quand tu disais je m'occupe pas assez de moi, bah ça en fait partie, hein.
Ouais.
Ça en fait vraiment partie, même si tu prends tu vas avoir une psy etc, je pense que c'est vraiment ça, prendre soin de soi. Tu vois,
ah bah complètement,
d'être... Mais c'est dur.
Ce matin, j'avais rendez-vous chez la psy, tu vois, j'avais pas envie, quoi.
Ouais.
Enfin, en fait, c'est pas une partie de plaisir non plus d'y aller, quoi.
Bah oui, parce qu'en même temps tu connais ça depuis tant d'années, quoi.
Ouais, d'où.
Mais bah, écoute, merci beaucoup, Ben, d'avoir accepté de parler de tout ça, parce que je sais que t'en parles pas beaucoup, et surtout pas comme ça, où il va y avoir des millions d'écoutes. Que dis-je, des milliards. Non, merci vraiment beaucoup d'être venu. Je sais que c'était pas un truc évident, surtout qu'en plus qu'on se connaît très bien. Donc, je sais pas si c'était évident pour toi ou compliqué.
Si, ça l'a. Non, ça l'a. Alors, j'avais pas envie. Hein. J'avais
ouais,
pas
je
envie,
sais que t'avais pas envie. Non, je te connais tellement.
Non, ça va, parce que franchement, le truc, c'est voilà, c'est j'ai pas envie d'en parler pour qu'on me donne des conseils.
Ouais.
J'ai envie d'en parler pour partager mon expérience et pour dire aux autres vraiment ça va en fait. Ça, on a le droit de pas être bien et on a le droit quoi.
Ouais, ouais.
En fait, laissez-vous juste être pas bien et laissez-vous guider pas par des charlatans. Faites attention à ça parce que vous perdez du temps et ça peut être vous pouvez mettre presque votre vie en jeu.
Mmh. Ok, bon, on va finir là-dessus.
C'est beau, c'est
écoute, sympa. C'était sympa, c'était une petite note d'espoir, hyper sympa. Non, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous pour votre écoute, vraiment, votre fidélité, votre soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que là, ça fait un mois et demi que le podcast existe, qui marche très bien. Et je vous le redis, je sais que je vous l'ai dit la dernière fois, mais ça me fait beaucoup de bien de pouvoir échanger comme ça avec des gens hyper intéressants et qui partagent leur expérience de vie. Donc, merci à mes invités, merci à vous pour votre écoute. Il y a Benjamin qui est en train de faire un câlin au tapis.
Parce que
vraiment, le mec est malade.
C'est pas ça, c'est qu'en fait, tu sais, c'est un tapis avec des poils et des fois...
Tu veux le ramener à la maison ?
Non, mais des fois, ils sont aplatis, alors je les ramène bien.
Et après, il dit qu'il est pas malade. Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, hein, parce que je m'adresse surtout à ceux qui m'écoutent chaque semaine et qui ne l'ont toujours pas fait. C'est un scandale, abonnez-vous tout de suite, j'attends.
Attends, j'ai une blague.
Ouais, vas-y.
Bon, je me catte.
Oh, waouh ! Vraiment, c'était une blague pas terrible, mais un peu sympa en même temps.
Pas mal.
Vous pouvez également me suivre sur Insta et sur Twitch. Le prochain live Twitch de l'épisode hors série aura lieu dans une semaine tout pile, le mardi 22 novembre. Alors, vous notez bien ça maintenant dans votre agenda. Mardi prochain, on parlera du ghosting. Et exceptionnellement, sur ce format classique, je serai accompagnée de deux invités. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai envie, tout simplement. Non, mais j'ai envie de recevoir une ghosteuse et un ghosté. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, même si une studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcast. Podcast.